la foi de cet aveugle l'a sauvé, l'a guéri, et aussi notre foi est nécessaire pour notre salut, pour cette guérison éternelle qui est l'entrée au paradis, la résurrection des morts. Et je voudrais, à partir de ce miracle, voir trois dimensions de la foi, de notre foi. La foi est une lumière pour l'intelligence, la foi est une confiance en Dieu, et la foi est un comportement moral, un comportement chrétien, une suite de Jésus. La foi est une lumière pour l'intelligence. Cet aveugle entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et nous savons, et il le sait, que le Messie doit naître non pas à Nazareth, mais à Bethléem. Nous savons que Jésus lui-même est né à Bethléem, puis a vécu à Nazareth. Et pourtant, cet aveugle l'appelle « fils de David ». C'est le titre du Messie. Saint Jean Chrysostome commente cela en disant « Cet aveugle appelle le Seigneur « fils de David » parce qu'il entend les louanges de la foule qui passe. Il acquiert ainsi la certitude que le Sauveur vient accomplir les prophéties. Ainsi, il se mit à crier deux fois « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Le Seigneur va non seulement guérir ses yeux, mais aussi il guérit son intelligence par la foi. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il dit « Rabboni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue. Il y a un lien entre sa guérison physique et la guérison de son intelligence par la foi. Nous-mêmes, comme catholiques, nous sommes appelés à nourrir notre intelligence, à faire grandir notre foi, à avoir de bonnes lectures, je pense au catéchisme de l'Église catholique et bien sûr à la Bible. Je pense aussi à des vidéos de formation, et dans notre paroisse, nous avons une formation actuellement pour adultes et nous aurons au mois de janvier une formation d'approfondissement sur l'Église. Fortifie notre intelligence, nous donne une solidité intérieure pour passer les épreuves que nous pouvons rencontrer, les épreuves de la vie, mais aussi les épreuves que traverse l'Église. Vous avez peut-être entendu cette semaine cet ancien vicaire général qui, en 2016, a été découvert par notre évêque et qui était, on peut dire, un traître qui trafiquait l'argent du diocèse pour des choses inavouables. Eh bien, cela ne doit pas vous faire bouger notre foi, car nous savons, grâce à notre formation, que si l'Église est sainte, en aucun cas l'Église est sainte parce que tous ses membres seraient saints, ce n'est pas le cas sur cette terre, mais elle est sainte pour trois raisons. D'abord parce que son fondateur est saint, c'est Jésus lui-même qui est Dieu. Il a voulu l'Église et sa structure essentielle. Elle est sainte par son enseignement qu'elle transmet, la Bible et sa tradition. Elle est sainte par les sacrements, ces sacrements qui transforment nos vies et qui font des saints, et ces saints sont innombrables dans notre histoire. Alors parfois, avec ces affaires à répétition, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il faudrait arrêter, par exemple, la hiérarchie de l'Église ? Il ne faudrait plus de hiérarchie dans l'Église. Alors le Seigneur Jésus est pour nous un modèle. Il a choisi une hiérarchie, 12 apôtres, et parmi ces 12 apôtres, il y avait Judas, un traître. Et quand Judas l'a trahi, le Seigneur est mort sur la croix, il est ressuscité, il a réuni ses 11 apôtres, et il ne leur a pas dit, bon c'est bon maintenant, il y a eu un traître, on va arrêter la mission des apôtres, on va faire autrement. Non, il a conforté Pierre dans sa mission, qu'il avait pourtant abandonnée, il a conforté les autres apôtres, et leur a donné la mission d'évangéliser le monde. Et depuis 2000 ans, cette hiérarchie de l'Église, malgré qu'elle comporte parfois des traîtres parmi elles, continue la mission de l'Église, continue la mission de Jésus, et Jésus par là montre que sa puissance divine s'exerce malgré la faiblesse humaine. Ainsi, je lisais un article sur l'Église il y a longtemps, plus d'un siècle, et qui disait que l'histoire de l'Église montre qu'à chaque fois les épreuves ont été traversées grâce à la présence du Saint-Esprit. Fortifier notre intelligence, fortifier notre foi, ainsi nous permet d'exercer plus profondément notre confiance en Dieu. Nous voyons cet aveugle. Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Et nous voyons que cet aveugle ne s'avance pas doucement vers Jésus, mais l'aveugle jette son manteau, bondit et court vers Jésus. Quel acte de confiance ! Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Un autre père de l'Église, Saint Bède le Vénérable, commente ceci en disant « Jésus avait la puissance de lui rendre la vue. » Pouvait-il ignorer le désir de cet aveugle ? C'était évident, l'aveugle voulait qu'on guérisse ses yeux, hein. C'est évident. Mais Jésus pose cette question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» S'il interroge l'aveugle, c'est pour que cet aveugle demande sa guérison, pour faire naître en lui, en son cœur, une prière fervente, une prière confiante. Ainsi, la foi n'est pas simplement un savoir. Imaginez quelqu'un qui veut cuisiner, il aurait lu pas mal de livres de cuisine, il sait cuisiner, mais il ne le sait pas. Ce serait un peu la foi où on connaîtrait des choses, mais on n'exercerait pas notre foi. Pour exercer notre foi, il est important d'en faire des actes de foi, et je pense à cette belle prière « Jésus, j'ai confiance en toi ». N'hésitons pas à la faire souvent, à la répéter « Jésus, j'ai confiance en toi ». Bien sûr, la foi n'est pas une simple confiance sans notre intelligence, sans un savoir. Ce serait un peu comme celui qui voudrait faire de la cuisine sans livre de cuisine, en faisant un peu au hasard les choses. Voilà, on risque de rater pas mal de plats. Donc la foi est en même temps savoir, connaissance et confiance. Les deux vont toujours ensemble. La foi est aussi un comportement moral, une suite de Jésus. On voit dans cet évangile l'aveugle qui change d'attitude. Au début, donc Timée, cet aveugle qui mendie, est assis au bord de chemin. Et après sa guérison, aussitôt l'homme retrouva la vue, il suivait Jésus sur le chemin. Il est passé de l'attitude assise à la suite de Jésus. Théophile, un autre père de l'Église, dit que cet aveugle témoigne de sa reconnaissance à Jésus qui vient de le guérir en suivant Jésus, son bienfaiteur, en s'attachant à lui. Et cette suite de Jésus, qui est une suite physique, il va suivre Jésus après, en plus Jésus va à Jérusalem pour sa passion, sa résurrection, cette suite physique de Jésus est aussi une imitation, une suite de ses commandements. Ainsi, en voyant Jésus comme modèle, en recevant sa grâce, cet aveugle guéri a compris dans son intelligence qu'il était le Seigneur, le Sauveur. Et il veut aussi pratiquer ce que Jésus dit, son enseignement. La foi catholique est non seulement un savoir, une confiance, mais aussi c'est un comportement. On ne peut pas dire, en réalité, du moins ce n'est pas cohérent, « J'ai la foi, mais je ne suis pas pratiquant ». C'est une erreur, parce que cela veut dire qu'on connaît des choses, qu'on a confiance en Dieu, mais qu'on ne veut pas vivre selon son enseignement, qu'on ne veut pas vivre selon le culte du dimanche, par exemple, où nous aimons Dieu concrètement, ensemble, nous réunissons pour lui rendre honneur. On dirait non, non, ce n'est pas important. L'important, c'est de savoir, d'avoir confiance, mais d'aimer Dieu de tout son cœur et de ses frères et sœurs comme soi-même, que nous vivons particulièrement le dimanche, en recevant la force de Dieu. On dit non, ce n'est pas très important. Eh bien non, cela ne va pas ensemble. Ce serait un peu comme si on connaîtrait le livre de cuisine, on saurait faire des super plats, mais on ne les mangerait pas. Ce serait vraiment dommage. Alors j'espère que je ne vous donne pas de distraction pour le repas de ce midi. C'est juste pour illustrer que notre foi est en même temps savoir, confiance et comportement. Nous avons un modèle pour cela, c'est la Vierge Marie. En ce mois du rosaire, où nous l'honorons, et aussi en cette église Notre-Dame de Lourdes, n'hésitons pas à la prier. Elle est le modèle du savoir, parce que dans l'Évangile, il nous dit qu'elle médite les événements qu'elle vit auprès de son Fils Jésus, elle les médite dans son cœur. Dans l'Évangile, selon saint Luc, c'est dit deux fois. Profondément, son intelligence est pénétrée par ce qui se passe, par la révélation de Dieu. Elle est confiante. Par son oui à l'Annonciation, par son fiat, et par sa foi à la croix, il est un modèle de confiance. Elle est aussi le modèle dans la suite de Jésus. Elle est sans péché. Elle est profondément habitée par le Saint-Esprit qui lui donne d'aimer le Père de tout son cœur et nous-mêmes. Elle nous aime chacun. Aussi, n'hésitons pas à la prier pour grandir dans la foi. Elle nous aide à faire passer les épreuves. Elle nous donne la joie de la présence de Dieu. Amen.